Ce soir, on verra qu'il ne suffit pas de traverser la forêt pour trouver du travail, et que si vous partez affronter le diable en personne, il vaudrait mieux prendre le temps de mettre des chaussures. La créature du soir est le triste résultat de rancœurs que même la mort ne peut apaiser. Vous écoutez Contes des Soirs Perdus, l'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore et vous replonge dans ceux que vous aviez peut-être oubliés. Ceci est l'épisode 61, Le Diable en personne, où on découvre deux contes norvégiens d'Asbjørnsen et Moe. Mais il n'y a pas vraiment de contexte à connaître pour les apprécier. Alors, allons-y sans attendre. Loin, caché sous le couvert d'une forêt, une masure abritait un couple et leurs trois fils. Du moins, elle les abritait du plus gros du vent d'hiver, d'une partie de l'eau glacée des puits de novembre. Car le couple était pauvre, aussi pauvre qu'on peut l'être, et vivait d'un jour au suivant, sans jamais pouvoir imaginer l'avenir, tant la nourriture leur faisait défaut. Un jour, l'aîné des fils en eut assez de cette vie, et décida de partir chercher un travail au-delà de la forêt. Il marcha longtemps, et le soleil venait de se coucher lorsqu'il arriva aux abords d'un grand palais. Dans les ombres du crépuscule, il ne remarqua pas la bâtisse, et fut surpris de voir soudain un homme se tenir debout sur des marches de pierre, qui menaient vers de splendides jardins. Les vêtements de l'homme étaient tissés d'étoffes si précieuses qu'ils auraient suffi à nourrir toute la famille du jeune homme pendant une décennie, et une couronne d'or ceignait son front. « Que fais-tu ici à cette heure, jeune homme ?» demanda le roi.
« Je suis parti chercher du travail, monseigneur. J'espère trouver la fortune. »«
Eh bien, souhaiterais-tu travailler pour moi ? Je possède 7 poulains. Demain, je les laisserai s'ébattre en liberté. Tu ne devras pas les quitter des yeux. » Si à la fin de la journée tu peux me dire ce qu'ils mangent et boivent, je te donnerai la main de ma fille et la moitié de mon royaume. Si tu échoues, en revanche, je te chasserai et tu seras lacéré de 3 coups de fouet. Le jeune homme se dit qu'il ne pouvait pas être bien difficile de veiller sur quelques poulains et accepta volontiers. Il fut hébergé dans les quartiers des serviteurs. C'était la première fois de sa vie qu'il s'endormait dans un lit, sans sentir les courants d'air glacer ses orteils. Au matin, le palefrenier libéra les 7 poulains, qui s'élancèrent aussitôt dans la campagne, rapides comme le vent. Ils galopèrent par monts et par vaux, et le garçon avait bien du mal à les suivre. Les bêtes finirent par passer devant une haute fissure qui s'ouvrait dans la roche. Le frère aîné était rouge d'effort, en sueur et à bout de souffle. Une vieille femme, qui semblait vivre dans la fissure, l'appela alors.
« Jeune homme, jeune homme, viens donc te reposer ici. J'ôterai les poux de ta tête. »
L'offre tenta le garçon, d'autant que les poulains s'éloignaient déjà au loin, et il accepta. La vieille s'occupa de lui, et il passa la journée près de la fissure à paresser. Quand il vit le soleil descendre dans le ciel, il s'inquiéta seulement. « Je ferais mieux de rentrer immédiatement. Rien de bon ne m'attend au château. »«
Ne t'inquiète pas, les poulains vont bientôt repasser. Prends ça, tu diras au roi que c'est ce que les poulains ont bu et mangé. Personne ne sait que tu n'as pas veillé sur eux toute la journée. »
Et la vieille femme lui remit un flacon d'eau et une touffe de mousse. Bientôt, en effet, les poulains repassèrent par la fissure, et le jeune homme les suivit jusqu'au château. Le roi attendait sur les marches, comme la veille. « Alors, as-tu bien veillé sur mes poulains ? »
Le jeune homme affirma que oui, et exhiba le flacon et la touffe de mousse, en proclamant qu'il s'agissait de ce que les poulains avaient bu et mangé. Le roi entra dans une colère noire, et ordonna qu'on chasse ce garçon hors de sa vue. Mais pas avant de lui avoir lacéré le dos. Les serviteurs le fouettèrent 3 fois, laissant 3 marques à vif sur son dos, puis versèrent du gros sel dans les plaies. Le jeune homme rentra chez lui en piteux état et jura que plus jamais il n'irait chercher du travail. Mais son récit ne découragea pas son jeune frère, qui décida le lendemain de partir lui aussi chercher du travail. Il marcha toute la journée et finit par arriver au château. Là, le roi se tenait à nouveau, debout sur les marches. Il fit la même offre au jeune homme, qui accepta. Le lendemain, quand le palefrenier libéra les poulains, ils partirent encore plus vite que le jour précédent. Ils fonçaient droit devant eux, sans jamais ralentir. Le jeune homme sentait son estomac au bord de ses lèvres, quand les poulains dépassèrent la fissure où vivait la vieille femme.
« Hé là, jeune homme, mon mignon! Repose-toi ici, j'ôterai les poux de ta tête !»
Le jeune homme n'en pouvait plus et décida qu'il n'y avait rien de mal à faire une petite pause. Comme son frère, il passa le reste de la journée là, à paresser. Quand le soleil amorça sa descente, il se souvint de la menace du roi et prit peur. Mais la vieille le rassura.
« Personne ne sait que tu es resté ici toute la journée. Les poulains repasseront bientôt, et tu pourras les suivre jusqu'au palais. Donne alors ceci au roi. »
Et la vieille lui offrit 1 flacon d'eau et 1 touffe de mousse. Les poulains repassèrent bientôt, et le second frère les suivit jusqu'au palais. Lui aussi affirma au roi qu'il avait attentivement veillé sur les poulains. Mais lorsqu'il lui offrit le flacon et la mousse, le roi se montra encore plus terrible que la veille, et le second frère rentra lui aussi chez lui en jurant de ne plus jamais aller chercher du travail. Le plus jeune frère, qu'on appelait Ashlad, car il passait ses journées à ne rien faire hormis jouer dans la cendre, annonça alors qu'il voulait tenter sa chance lui aussi. Ses frères se moquèrent amèrement de lui, et ses parents refusèrent tout net de le laisser partir, après ce qui était arrivé à ses frères. Mais rien ne put décourager Ashlad, et le lendemain, contre l'avis de tous, il se mit en route. Au crépuscule, il rencontra le roi, toujours debout sur les marches de son domaine.
« Bonsoir, monseigneur. J'aimerais travailler pour vous. Mes frères vous ont déjà offert leur service, et j'aimerais bien tenter ma chance désormais. »
Le roi, en entendant que le garçon était le frère des 2 autres, cria qu'il avait eu assez de cette famille, et que s'il était vraiment leur frère, il devait être lui aussi un bon à rien. Il tenta de chasser Ashlad, mais celui-ci insista tant que le roi finit par céder.
« Eh bien, si tu tiens tant à te faire fouetter, j'imagine que je n'ai pas de raison de t'en dissuader. Tant pis pour toi. »
Aux aurores, le palefrenier libéra les poulains. Tout comme ses frères, Ashlad dut puiser dans toutes les forces qu'il possédait pour tenir le rythme. Arrivé à la fissure, la vieille femme lui fit la même offre qu'à ses frères. Mais Ashlad fila sans ralentir.
« Tu peux embrasser mes fesses, sorcière !»
lui cria-t-il en disparaissant au loin. Dans un effort qui laissa ses jambes enflammées, il agrippa la queue du plus jeune des poulains et parvint à garder la cadence. Le poulain se tourna alors vers lui et lui dit « Monte sur mon dos, nous allons accélérer. » Le garçon fit ce que l'animal lui disait, et le poulain repartit de plus belle. Ils galopèrent longtemps ainsi. Le poulain demanda alors au garçon « Est-ce que tu vois quelque chose ?»«
Non, rien du tout. »
Et ils repartirent. Plus tard, le poulain demanda à nouveau
« Vois-tu quelque chose ?»«
Non, rien du tout. »
Ils galopèrent loin, très loin. Finalement, le poulain répéta sa question.
« Oui, je vois quelque chose !» répondit cette fois Ashlad. « On dirait une énorme souche de bouleau !»
Les poulains parcoururent en un rien de temps la distance qui les séparait de la souche. Le plus âgé d'entre eux renversa la souche d'un coup de sabot et révéla une grande porte par laquelle ils s'engouffrèrent tous. Dans la souche ne se trouvait qu'une petite pièce qui n'abritait qu'un âtre froid et quelques tabourets. Mais derrière la porte, se trouvait une longue et lourde épée, rongée par la rouille, et une flasque. Le plus jeune poulain se tourna vers Ashlad. « Peux-tu soulever l'épée ?» Ashlad essaya, mais l'épée ne bougea pas d'un pouce. Le poulain lui fit signe de boire une gorgée du liquide que contenait la flasque. Il tenta à nouveau sa chance, mais l'épée ne bougea toujours pas. Il but alors une deuxième, puis une troisième gorgée. Enfin, il put s'emparer de l'épée et la manier avec aisance. « Bien, garde cette épée avec toi. Le jour de ton mariage avec la princesse, tu l'utiliseras pour trancher la tête de chacun de nous sept. Alors, nous nous changerons à nouveau en prince. Nous sommes les frères de la princesse que tu vas épouser. Un vil troll nous a changés en poulain. C'est la seule manière de retrouver notre véritable apparence. Viens maintenant, nous avons encore de la route. » Le plus jeune poulain reprit Ashlad sur son dos, et le galop repartit de plus belle. À nouveau, le poulain demanda après un temps s'il voyait quelque chose. Le garçon répondit par la négative, deux fois. Mais à la troisième, il aperçut une forme obscure au loin.
« Je vois quelque chose. On dirait un cimetière. »
Les poulains doublèrent l'allure et passèrent bientôt les grilles d'un petit cimetière, envahi par les orties et le lierre. Une minuscule chapelle se dressait en son centre, son toit presque effondré. Mais le plus remarquable était qu'à l'instant où les poulains avaient passé les grilles, ils avaient pris l'apparence de superbes jeunes hommes, aux habits éblouissants. Ils se dirigèrent vers la chapelle. À l'intérieur, un vieux pasteur leur distribua le pain et le vin. Tous communièrent, mais Ashlad déroba discrètement un flacon de vin et quelques hosties. Les jeunes princes se dirigèrent alors vers le cimetière. Lorsqu'ils repassèrent la grille, ils ne furent à nouveau que de simples poulains. Ashlad monta sur le plus jeune et ils rentrèrent chez eux. Ils repartirent de là où ils étaient venus, mais bien plus vite que jamais. Ashlad perçut la grande souche, puis la fissure. Il ne comprit pas ce que la vieille lui cria, mais cela ne paraissait pas sympathique. Le soir venu, ils atteignirent le château. Le roi avait déjà fait préparer le fouet. Mais quand il demanda à Ashlad ce que les poulains mangeaient et buvaient lorsqu'ils s'absentaient, il lui présenta le vin de messe et les hosties.
« Ma foi, tu as bien veillé sur eux, » reconnut le roi. « Tu auras la main de ma fille et la moitié de mon royaume. »
Ils se lancèrent alors dans les préparatifs du mariage. Le roi annonça qu'il serait si magnifique et splendide qu'on en parlerait dans les contrées les plus éloignées. Le jour de la cérémonie arriva. Juste avant le mariage, Ashlad expliqua qu'il avait oublié quelque chose et s'éclipsa. Il alla s'emparer de l'épée rouillée et se dirigea vers les écuries. Tout le monde était au mariage, il ne restait pas un garçon des tables. Ashlad se dirigea vers l'aîné des poulains et le décapita d'un seul coup. Il fit ensuite ainsi avec chacun des autres et plaça délicatement la tête de chaque poulain près de la queue du corps qui leur avait appartenu. Une fois qu'il eut fait tout cela, ils se changèrent tous en prince et l'accompagnèrent jusqu'au lieu de la cérémonie. La princesse tomba encore plus amoureuse de son fiancé en le voyant arriver à la tête de ses frères, et le roi, fou de joie, annonça qu'à sa mort, Ashlad hériterait du reste du royaume. Maintenant que ses fils avaient retrouvé leur apparence, ils pourraient conquérir leur propre royaume par eux-mêmes. Dans un petit village, perdu dans la campagne, vivait un fermier veuf, avec sa bonne nommée Gitzk. Cette dernière avait dans l'idée d'épouser le veuf, et le harcelait jour et nuit à ce sujet. Le pauvre homme désespérait de se débarrasser de la bougresse, mais elle était tenace, et il n'y était pas encore parvenu. Un jour, au commencement de la belle saison, il fut temps d'aller récolter le chanvre. Gitzk, toujours à l'affût de montrer qu'elle ferait une bonne épouse, se précipita dans la plantation et commença à secouer les plantes avec une telle fougue que, bientôt, les fortes senteurs lui firent tourner la tête. Et elle roula au sol, endormie. Ces légers ronflements délicats alertèrent le fermier, qui vit une occasion d'enfin être quitte de ce poids. Il fila chercher une paire de ciseaux et découpa les jupons de la bonne, jusqu'à en faire des guenilles. Puis, il lui étala de la tourbe et de la suie partout sur le visage et le corps. Gitzk se mettait à remuer dans son sommeil. Alors le fermier prit ses jambes à son cou et fila s'enfermer chez lui. Lorsque Gitzk s'éveilla, elle avait un terrible mal de tête et alla à la rivière pour boire un peu d'eau. Arrivée sur la berge, elle se pencha et vit un visage qui n'était pas le sien à la regarder. Un sursaut de terreur la saisit.
Mais qui est-ce? Je pensais être Gitzk, mais elle n'a jamais eu une telle allure. Je dois être le diable lui-même.
Sur ces mots, elle partit en courant vers la ferme de son maître. Une fois là-bas, elle tambourina comme une sourde jusqu'à ce que le fermier vienne lui ouvrir, l'air abasourdi.
Monsieur, votre Gitzk est-elle à la maison aujourd'hui?
Mais évidemment qu'elle est là, elle est revenue de la plantation de chanvre depuis longtemps déjà. Et il lui claqua la porte au nez. Gitzk en était certaine maintenant. Puisque Gitzk était à la ferme, elle devait elle-même être le démon en personne. Elle ne voyait aucune autre explication, et se mit alors en route. Elle marchait depuis un moment, lorsqu'elle arriva dans une sombre forêt. Là, deux voleurs discutaient du larcin qu'ils s'apprêtaient à commettre.
« Eh bien, puisque je suis le diable, c'est avec ce genre de personne qu'il me faut frayer. »
Elle s'avança dans la clairière, mais les deux voleurs avaient un avis différent sur la question. Quand ils aperçurent l'importune, ils crurent que le malin était venu les prendre, et ils prirent leurs jambes à leur cou. Mais Gitzk avait le pas long et le pied léger. Avant que les voleurs n'aient compris ce qu'il se passait, elle les avait rattrapés.
« Si vous voulez voler des choses, je voudrais vous accompagner et donner un coup de main. Je connais bien la région. »
Les voleurs, en entendant ça, se dirent qu'elle serait de bonne compagnie finalement, et l'invitèrent à rester. Ils lui expliquèrent qu'ils voulaient voler un mouton, mais qu'ils ne savaient pas où en trouver.
« Oh, c'est facile, il y a une ferme par là, en dehors de la forêt. Je connais bien l'endroit. Je pourrais rentrer dans la bergerie dans le noir le plus complet. »
Les voleurs se frottèrent les mains, et à la nuit tombée, la troupe se mit en route. La bergerie bordait la ferme, sur le mur de la chambre du fermier. Gitzk se montra donc infiniment discrète et prudente. Mais une fois à l'intérieur, elle cria aux voleurs.
« Ah, vous voulez un bélier ou une brebis? Il y en a plein ici! On a l'embarras du choix !»«
Chut, moins fort! On s'en fiche! Prends ce que tu veux !» Toi, ça n'a pas d'importance, prends-en juste un bien gras.
Oui, mais vous voulez un bélier ou une brebis? Un bélier ou une brebis, il y a le choix.
On s'en fiche, prends-en juste un bien gras.
Pendant ce temps, le raffut avait alerté le fermier, qui se précipita dehors en chemise de nuit. Les voleurs s'enfuirent aussi vite qu'ils purent. Gitzk s'élança à leur poursuite et percuta à pleine vitesse le fermier qui vola par terre. Sans s'arrêter, elle s'enfonça dans la nuit en criant
« Attendez, attendez! Vous voulez un bélier ou une brebis ?»
Le fermier, toujours par terre, crut en voyant la forme sale et grotesque s'éloigner que le démon lui-même était venu le voler. Il se précipita à l'intérieur, réveilla tous ses serviteurs et les fit s'asseoir en rond pour prier. Il avait entendu qu'on pouvait ainsi repousser le diable. De retour dans la forêt, Gitzk et ses compagnons s'endormirent le ventre vide. Le lendemain, à la nuit tombée, les trois compères se mirent en route vers une autre ferme des environs. Gitzk se glissa dans l'étable aussi silencieusement que la veille. Mais une fois à l'intérieur, elle interpella ses compagnons restés dehors.
Fort, ça n'a aucune importance. Prends-en un bien gras, c'est tout.
Ouais, mais une oie ou un jar.
Pendant que Gitzk débattait avec les voleurs, le fermier sortit, et les voleurs s'enfuirent. L'homme avait entendu dire que le diable parcourait le pays, et il en fut convaincu quand il vit Gitzk sortir en courant de l'étable.
« Les amis, les amis, attendez! Vous voulez une voix au hasard ?»
Le fermier réveilla toute la maisonnée, et ils se mirent à prier jusqu'au matin. Pour la deuxième fois, les voleurs se couchèrent le ventre vide. Le lendemain, ils mouraient de faim. Ils voulaient désespérément quelque chose à se mettre sous la dent, et se contentèrent d'aller visiter un entrepôt. Mais le bruit courait maintenant dans le pays que le diable visitait les fermes la nuit, et, arrivés sur place, ils n'osèrent pas entrer eux-mêmes, de peur de le croiser. La suppliant d'être discrète cette fois, ils envoyèrent Gitzk à l'intérieur. Mais bientôt, ils entendirent sa voix surgir de l'entrepôt.
« Vous voulez du porc, du bœuf ou du pâté ? Il y a un choix ! Du porc, du bœuf ou du pâté ?»
Les voleurs connaissaient la chanson, et quand la porte de la ferme s'ouvrit, ils avaient déjà commencé à courir. Le fermier eut juste le temps de voir une répugnante silhouette surgir de l'entrepôt et s'enfoncer dans la nuit en criant
« les garçons, attendez, il y a le choix !»
Tous les habitants de la région savaient maintenant que le diable rôdait la nuit. Les voleurs et Gitzk, eux, s'endormirent dans une symphonie de tristes gargouillis. Le samedi soir, les voleurs partirent vers une nouvelle ferme. Ils voulaient essayer de voler un bouc pour leur repas du dimanche. Et ils en avaient grandement besoin, car ils n'avaient rien mangé de la semaine. Mais quand Gitzk voulut les accompagner, ils refusèrent, disant qu'elle n'avait fait que leur causer des problèmes avec ses cris. Elle les attendit toute la nuit, mais ne les vit pas revenir. Quand le soleil se leva, elle se rendit sur la route pour voir arriver les voleurs, et aperçut une pile de navets. Elle avait tellement faim qu'elle grimpa sur la pile et croqua un navet sans même en essuyer la terre. Un fermier sortit à ce moment et remarqua une forme sombre et hideuse perchée sur son tas de navets. Frappé d'horreur, il se précipita chez lui pour s'habiller.
« Mais qu'est-ce qui t'arrive donc ?»
lui lança sa femme en le voyant en panique.
« Le démon est chez nous! Il pille nos navets! Je vais chercher le prêtre. » Il paraît que ces gens-là peuvent repousser le malin.
Bah, le prêtre ne viendra pas, il est au lit à cette heure. Et même s'il est réveillé, il doit revoir son sermon pour la messe, il se dérangera pas.
L'épouse n'avait qu'à moitié raison. Quand le fermier se présenta au presbytère, le prêtre, qui était en effet encore au lit, l'accueillit en bâillant, des pantoufles aux pieds et un bonnet de nuit sur la tête. Mais quand le fermier lui expliqua la situation, le prêtre accepta immédiatement de venir.
« Attendez, je vais faire sceller mon cheval. »« Mon père, le malin pourrait bien ne pas nous attendre. Il faut partir tout de suite. »
Et le fermier fila sur la route, suivi du prêtre, toujours en chemise et bonnet de nuit. Il avait plu pendant la nuit, et le chemin qui menait à la ferme était boueux. Le prêtre ne pouvait pas s'y aventurer en pantoufles. Le fermier le hissa alors sur son dos et continua sa route. Gitzk était toujours penché sur sa pile de navets, et son estomac gargouillait terriblement. Quand elle vit arriver le fermier, avec son ridicule chargement, elle crut qu'il s'agissait d'un voleur avec le bouc. Elle sauta sur ses pieds et s'exclama
« Est-il bien gras ? Est-il bien gras ? Est-il bien gras ?»
Le fermier frémit de terreur.
« Je ne saurais dire s'il est maigre ou gras, il faudra venir vérifier vous-même !»
Et sur ces mots, il lâcha le prêtre et fila aussi vite qu'il put. Quant au prêtre, s'il n'a pas trouvé le courage de se relever, il doit toujours être étalé dans la boue. Ce soir, je vous parle de Mizoidashi, qu'on peut traduire par « celui qui sort du fossé ». Il y a longtemps, lors du premier shogunat au Japon, un noble de la cour fit enfermer dans une malle le cadavre d'un de ses vassaux, qui venait de mourir, et jeter la malle à la mer. Mais la mer rejeta la malle, qui s'échoua sur la plage de Yui, près d'un temple.
une voix pleine de ressentiment s'éleva alors jour et nuit de la malle. Un bonze du temple finit par s'en approcher et ouvrit la malle. À l'intérieur, gisaient les restes du vassal, blanchis par l'eau salée. Le bonze offrit les derniers rites à la dépouille, et de ce jour, le chant s'arrêta. Mais quelques années plus tard, Kamakura fut attaqué, et le noble participa à la défense de la ville. Acculé, il s'enfuit, et fut rattrapé sur la plage de Yui, où une flèche le tua à l'endroit précis où la mère avait rejeté la dépouille de son vassal. Certaines rancœurs survivent visiblement à l'au-delà. L'imaginaire fabuleux de la Norvège serait probablement tombé pour une grande part dans l'oubli, si ce n'était pour Asbjørnsen et Moe, deux amis et folkloristes qui, au XIXe siècle, ont entrepris de collecter les histoires qui se racontaient aux quatre coins de la Norvège. Ils ont sauvegardé un lien précieux, et nous reviendrons à leurs histoires bientôt, car il y a dans leur recueil de véritables pépites. Dans la première histoire, j'ai choisi de conserver le nom H-Lad, pour le plus jeune frère, qui signifie littéralement « garçon des cendres », car c'est un nom qui revient souvent dans les contes norvégiens, toujours pour désigner un jeune garçon astucieux, sur lequel personne n'aurait parié un sou. Il a parfois été contracté en un seul mot, comme s'il s'agissait d'un prénom plutôt qu'un surnom, et je trouvais qu'une traduction n'aurait pas rendu le même ton. C'est déjà tout pour ce soir. Contes des Soirs Perdus est une création de Lloyd et Biljana Blake. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour encore plus d'histoires sur les créatures du folklore, et nous soutenir sur Tipeee si le podcast vous plaît. La prochaine fois, on ira faire un nouveau tour au Japon, pour un classique du pays des cerisiers.